Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Suite et fin de notre série de forums à la Tapoa à 150 km de Niamey pour parler de l'importance des aires protégées, le cas du parc national du W. Le parc national W, qu'est-ce que c'est? Quand a-t-il été créé? Par qui et pourquoi? D'où tient-il ce nom de parc du W? Quelles sont ses principales caractéristiques? Quels sont les avantages liés à l'inscription du parc national sur cette liste de l'UNESCO? Quelle est la contribution des différents acteurs dans la promotion et la valorisation de ce joyau qu'est le parc national du W? Quels sont les projets en perspective dans le but d'accroître la préservation de ce parc ainsi que les animaux qui sont conservés? Comment se rendre au parc national du W et quoi découvrir? Nos invités pour répondre à ces questions sont Mustapha Mahman, préfet du département de Saï, Yacouba Diallo, maire de la commune rurale de Tamou, Samaïla Sahelou, directeur de la faune, de la chasse, des parcs et réserves, Colonel Moussa Djibé, conservateur du parc national du W, Madame Abdou Aïssa, directrice du patrimoine touristique et hôtelier, et Omar Wali, guide et accompagnateur du parc national du W. À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le forum d'aujourd'hui. Je le disais, la thématique autour de laquelle tourneront nos échanges est l'importance des aires protégées. Le cas du parc national du W, le parc national du W, est une réserve naturelle regorgeant d'importantes espèces animales créée en août 1954. Le parc, d'une superficie de 10 000 km², protégé depuis 2007 par la convention de Ramsar I, la convention sur les zones humides, le parc est géré conjointement par le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Le parc tient son nom de la forme en W d'une série de méandres du fleuve du Niger en ces lieux. Le parc national du Niger est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996 et reconnu en tant que réserve de biosphère transfrontalière depuis 2002 par l'UNESCO. Monsieur le directeur de la faune, le parc national du W Niger est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, je l'avais dit, depuis 1996. Est-ce qu'on peut avoir une idée des avantages liés à l'inscription sur cette liste de l'UNESCO?
Les avantages liés, c'est que l'UNESCO nous appuie en termes de renforcement des capacités. Chaque fois qu'ils viennent, on fait l'évaluation. On fait le rapport de périodique d'évaluation. Ils appuient, ils forment nos gens et on participe à toutes les réunions et on fait des dossiers, des petits dossiers de financement. Ils apportent leur contribution. Mais au-delà, je voulais quand même, et comme il l'a dit, à l'occasion, peut-être c'est le préfet qui le fait, qui va le faire, et remercier un certain nombre de partenaires locaux, notamment les ONG dont elle a dit, ZSL et ATPF, COGESO, le programme GIZ qui vient de lancer. On a lancé le. Et ils vont mettre beaucoup de ressources, TriAide, ils vont mettre beaucoup de ressources, et ensemble, on
est-ce
va.
Excusez-moi de vous couper, est-ce que c'est seulement l'aspect renforcement des capacités, c'est seulement cet aspect qui est pris en charge par l'UNESCO?
Non,
c'est le sujet. Il y a des avantages financiers.
C'est la formation, c'est la surveillance, c'est le suivi écologique. Tous ces efforts-là qu'on a dit, c'est des activités que nous menons, qui les ONG et autres appuient. Je vous donne un exemple. ZDS, bientôt on va venir avec le préfet pour faire ça. Il prend en charge la surveillance.
Nous avons parlé de l'UNESCO. Est-ce que ces projets que vous citez sont appuyés par l'UNESCO? Moi, je voulais savoir la nature de l'aide de l'UNESCO pour avoir inscrit le parc au patrimoine mondial. Est-ce que cela donne des avantages en dehors du renforcement des compétences?
Le directeur l'a si bien
dit. En dehors des partenaires?
Exact, en dehors des partenaires. Et même ces partenaires-là, c'est ces labels-là qu'eux-mêmes utilisent pour capter les financements à l'extérieur.
Le label du patrimoine mondial.
Le patrimoine mondial. Exactement, tous les dossiers de financement que les différents partenaires adressent à la recherche de financement, c'est basé sur ces labels-là. Et ces labels permettent d'accéder à des financements au
pour venir
exactement, pour venir
exécuter les projets.
Exact.
Bien. Monsieur le préfet, vous voulez réagir?
Justement, c'est pour appuyer un peu ce que le conservateur a dit. En fait, l'UNESCO, quand il inscrit un site comme ça sur sa liste de patrimoine international, c'est pas tout de suite de l'argent. Ça, il faudrait qu'on le dise mot pour mot pour que les gens sachent. C'est pas de l'argent qu'on octroie au pays ou bien au site. Mais c'est un label qu'on donne au site et ce label-là permet au site, à l'échelle mondiale, n'est-ce pas, d'aller chercher des financements pour sa gestion. Et c'est le cas que nous vivons ici. C'est juste ça.
Alors, nous venons à vous, monsieur le maire de la commune rurale de Tamou, Yacouba Diallo. Quelle est la nature de l'intervention de la mairie dans la gestion et la valorisation du parc national?
C'est d'abord la sensibilisation au sein de la population. Voilà. Donc, nous voulons à ce que la population sache que le parc là, c'est pour eux, c'est pour nous. Voilà. Et l'intérêt que le parc apporte pour eux aussi.
C'est dans ce domaine. Et comment cette sensibilisation s'est faite? Est-ce que vous faites des séances publiques de sensibilisation ou vous envoyez des agents au niveau de la population ou vous appuyez sur les chefs de village ou comment vous faites? Comment cette sensibilisation s'accélère?
D'un côté, à chaque sortie que nous faisons, nous parlons du parc. Et nous sensibilisons aussi les populations à travers les chefs de village et nos conseillers, surtout les villages et environnements.
Est-ce que vous avez l'impression que les populations vous écoutent, ils comprennent l'importance et ils adhèrent?
Je pense que maintenant, vous savez, le conservateur va vous dire, ça a diminué maintenant. Les menaces au sein du parc, ça a diminué, ce qui veut dire que la population commence à prendre conscience de l'importance du parc pour eux-mêmes.
Bien.
Donc c'est apporté ses fruits, je pense, que
la sensibilisation.
Quand même, nous continuons toujours la sensibilisation.
Alors, monsieur le préfet, qu'en est-il de vous, votre contribution, votre participation dans la gestion du parc national du W?
Bien, merci. Nous, c'est au niveau départemental, en coordination avec la direction départementale de l'environnement que nous abritons. Et à chaque fois que nous avons l'occasion de sortir vers les populations, on les sensibilise par rapport à l'importance du parc, par rapport à tous les intérêts qui peuvent tirer de l'exploitation touristique et scientifique qu'on fait du parc. Et nous faisons un plaidoyer, n'est-ce pas, pour l'intensification des investissements dans les projets de développement au niveau des villages riverains du parc pour que la pression diminue sur le parc. Et ça, c'est un. Deux, on fait aussi de sensibilisation, on fait des plaidoyers pour que le front agricole, on ne dit pas pour qu'il recule, mais pour qu'il n'avance plus, pour qu'il soit stationnaire. Maintenant, ce que nous faisons aussi, quand des occasions comme ça que vous nous offrez se présentent à nous, c'est d'appeler au niveau national. Le parc, c'est pour le Niger. Du moins, c'est dans sa partie de 220 000 hectares que nous abritons. Il faudrait que les Nigériens le connaissent. Il faudrait qu'il soit enseigné dans le curricula scolaire.
Ça, vous l'avez dit.
Et voilà, je l'ai dit. Il faudrait que nous en fassions la promotion pour qu'il soit connu à l'international. Notre parc que nous abritons n'a rien à envier aux différents parcs de l'Afrique centrale qui aujourd'hui participent pour beaucoup, n'est-ce pas, au budget de leur pays qui les abrite. Notre parc est la meilleure façon de le faire connaître. C'est que d'abord nous assurons tout le monde qu'il est sécurisé. Jamais, au grand jamais, personne n'a entendu parler des attaques de quelque nature que ce soit au niveau du département des Sains, encore moins au niveau du parc. Ça c'est un point positif qui doit quand même soustraire le parc de la zone rouge dans laquelle on veut la mettre.
Parce que nous avons vu quand même que la zone désertique, elle est déjà dans la,
dans la zone rouge. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait que la renaissance culturelle du programme acte 2 du président de la République, son excellence Issou Mamadou, il faudrait qu'on pense un peu à faire renaître aussi nos sites touristiques et nos aires protégées.
Bien.
En créant quoi? En créant des infrastructures sur ces sites-là qui peuvent accueillir les touristes et les mettre à l'aise et en toute sécurité. Donc,
Je peux même aller jusqu'à dire que pourquoi pas les fêtes tournantes de l'indépendance. Si on finit le chef-lieu de région, il faut penser un peu avoir une liste dont le parc serait le premier sur la liste à créer des infrastructures au niveau de ces sites-là.
Bien.
Il faudrait que le gouvernement de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, pense à venir au parc ou passer un week-end ou pour faire un conseil des ministres et qui serait publié sur les réseaux sociaux et partout pour qu'on voie que le parc national du Niger est une sécurité sûre.
Apparemment, le préfet a des idées révolutionnaires dans la conservation, la gestion du parc.
Monsieur le directeur de la faune, de la chasse et des parcs, parcs des réserves, comment s'est fait la gestion du parc national, du W, au plan local, national et sous-régional? C'est vrai que vous avez ébauché au début un peu cette question.
Merci, c'est une question pertinente. Ah. Au niveau national, nous avons une unité de gestion qui est dirigée par le conservateur, avec d'autres chefs de service, notamment le service d'aménagement, de protection et de suivi écologique, le volet tourisme, qui sont au niveau du parc. Au niveau régional, nous sommes en train de gérer certaines activités. Nous organisons les parties régionales ensemble avec les éléments du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Nous avons une infrastructure régionale qui est au cœur du parc régional, qui est le pont triple, où c'est des infrastructures où tous les éléments qui arrivent, par exemple, une dizaine de forestiers du Niger, ils ont leur hébergement. Nous avons 10 du Burkina, nous avons 10 du Bénin, et qui organisent les patrouilles régionales, suivant un secteur bien déterminé, qui est la Mekuru, qui est censé abriter la richesse spécifique au niveau de ce point d'eau, et donc c'est une convoitise. Donc, il faut surveiller ça. Et le secteur avec le Burkina Faso, où c'est les zones sensibles pour le braconnage. Ça, c'est la partie régionale.
Et c'est ça un périodique?
Ça, c'est nous avons un partenaire qui nous appuie et c'est périodique.
Nous avons l'année, combien de fois?
Ça dépend. Il va vous donner la précision. C'est eux qui organisent. Et en termes d'organisation, il y a un conservateur parmi les trois qui assure le commandement.
Ok.
Par exemple, il y a des périodes, une année, c'est lui qui assure le commandement. C'est lui qui dirige le commandement des parties régionales et il faut leur planification. Chaque période, c'est planifié. Et chacun apporte les moyens. OK? Maintenant, une autre activité qui est la formation anti-braconnage. C'est ensemble qu'on fait, les trois pays. Nous faisons les inventaires à grande échelle. Si c'est inventaire aérien, ça, c'est peut-être 5 ans chaque mois, chaque 5 ans. Et maintenant, les inventaires pédestres, chaque 2 ans, et les inventaires sur les carnivores, chaque 2 ans aussi. Ça, c'est des activités régionales. Qu'on se convient ensemble, parce que c'est une entité écologique, il faut qu'on avance ensemble. Les animaux bougent. Si le Niger seul fait à sa partie, c'est qu'il peut avoir doublon.
Ouais.
OK? Ça, par rapport à la régionalité, nous avons le CM qui conseille des ministres qui se réunit pour valider le plan, la planification annuelle et le rapport des activités antérieures et donne des orientations pour certaines activités. Nous avons le conseil technique de suivi régional qui c'est des techniciens qui font un travail et qui soumettent au conseil des ministres et nous avons les forums d'acteurs qui se réunissent avec les maires, avec ceci, cela. Souvent, vous allez voir, on va se retrouver parler de certaines thématiques d'importance.
Alors, quels sont les projets aujourd'hui en perspective dans le but d'accroître la préservation du parc national ainsi que les animaux qui sont conservés? Cette question, le directeur de la faune, vous voulez répondre?
Justement, et même le préfet allait le faire parce qu'on vient de Ouaga.
Oui.
On vient de lancer un programme régional justement exécuté par GIZ, la coopération allemande, une ONG de la coopération allemande financée par l'Union européenne. Et c'est un programme pour le WAP, pour un montant de 15 millions d'euros pour l'Union européenne et 8 millions d'euros pour la contribution de la coopération allemande. Et ils mettent en accent ce financement-là, c'est la surveillance, le suivi écologique et le développement local. Donc, après, nous avons un certain nombre d'ONG, notamment ZSL, qui est une ONG britannique qui a des petits financements, et deux pour le moment, qui avoisinent 300 millions, et qui intervient justement dans le cadre de la surveillance, le suivi écologique et aussi quelques activités de développement local. Et nous avons le programme de l'UCN, Mike, qui aussi appuie les gestionnaires pour la collecte de données, et ça c'est à travers l'UCN. Nous avons l'ONG ATPF et l'ONG Tiri-Aid, dont c'était quand M. le Préfet on a lancé chez vous, c'est avant-hier.
Avant-hier
à Saï. Donc là aussi, c'est des ONG qui contribuent dans le cadre de développement pour réduire de manière considérable les pressions sur le parc régional W.
Alors, par rapport au projet en perspective, M. le Préfet, vous avez d'autres choses à ajouter?
Oui, justement, j'ai d'autres choses à ajouter. Tous ces projets dont le directeur vient de parler, c'est des projets qui souvent interviennent et dedans et dans les alentours du parc. Dedans, pourquoi? Dedans, c'est pour diminuer la menace au sein du parc. Et dans les alentours du parc, c'est pour diminuer la pression sur le parc. Dans les alentours, c'est vraiment des projets de développement et pour pouvoir fixer les populations à leur habitat, pour qu'ils n'empiètent pas sur l'habitat naturel de la faune. Donc, c'est pour un peu pacifier la coexistence entre hommes et faune, effectivement. Donc, parce qu'on a constaté que dans la plupart du cas, c'est l'homme qui agresse. Et l'homme est acculé par des besoins. Donc, c'est ce besoin-là qu'il faut trouver.
À
ce besoin-là, sans qu'il n'empiète. Voilà. Donc, voilà, en gros, les interventions de différents projets là, lesquels que nous remercions beaucoup, et les différents bailleurs de fonds qui à l'échelle internationale sont en train de nous aider pour pacifier tous ces petits conflits là que nous constatons à l'intérieur et aux alentours du parc.
Alors, je m'en vais vous demander à tous, quel message avez-vous en tout cas à livrer au sujet de la préservation et de la gestion de ce patrimoine national et mondial que le parc national, chacun de vous, en tout cas c'est l'occasion.
Moi, je pense que pour la préservation et la gestion du parc, et je l'ai dit tout de suite et je ne cesserai de me répéter, c'est à nous, Nigériens, d'abord, de montrer que ce parc-là est un joyau pour que le monde s'intéresse à ce parc. Donc, commençons par nous-mêmes, les moyens que nous mobilisons nous-mêmes. C'est-à-dire cette curiosité que nous-mêmes nous avons de visiter les parcs, de le faire connaître aux générations futures. C'est cela qui va faire du parc, je pense, un objet de curiosité à l'échelle internationale.
Et vous avez demandé, vous avez voulu, vous voulez aussi que ce parc, en tout cas, puisse être intégré dans l'enseignement.
Bien entendu. Je voudrais que ce parc-là soit l'enseignement du parc et à travers l'enseignement du parc, tout ce qu'on peut trouver dans le parc, qui constitue aujourd'hui une richesse énorme de ces pays-là qu'on ne trouve nulle part ailleurs. En Afrique occidentale, en tout cas, ce n'est pas facile. Donc, bien sûr que nous les partageons avec le Bénin et le Burkina Faso, mais la diversité que nous avons sur les 220 000 hectares que nous avons, les autres ont des surfaces beaucoup plus étendues, mais nous sommes, je pense que d'une bonne vie fond, nous sommes, on a une richesse qu'ils n'ont pas. Préservons ça, enseignons ça à nos enfants, donnons-leur l'amour de les préserver eux aussi. Et c'est en grandissant qu'ils vont grandir avec l'amour, là, je pense. Merci beaucoup.
Monsieur le directeur de la FON,
merci, mais
votre message.
Le préfet l'a dit, la conservation, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire des forestiers, ce n'est pas l'affaire des gestionnaires qui sont ici, c'est l'affaire de tous les acteurs qui sont aux alentours. Et comme il l'a dit, on a un site très riche, il faut le déléguer. Et il faut que les générations actuelles et futures là, soient impliquées, soient éduquées. Et nous l'avons fait ici. Et c'est des exemples. Quand vous prenez un enfant, vous l'amenez ici, il voit un hippotrague ou il voit un oiseau qui pique un poisson, il comprend les relations écologiques. Et vous l'amenez au musée national pour voir les pièges qu'on attrape un lion, qu'on attrape un éléphant. Ça lui fait penser. Quand vous imaginez aujourd'hui, en 90, au niveau de la réserve de l'Aïr Ténéré, en 4, on avait des autruches à l'état naturel. Aujourd'hui, à l'état naturel, on n'a pas un individu. Quand vous partez à Zakouma, vous allez voir beaucoup d'autruches. Et ça nous fait mal aujourd'hui. Tout est parti. On n'a pas. Et c'est ça qui doit quand même réveiller les gens
Pour sauvegarder ce qui est encore vivant, ce qui est encore là.
Merci.
Monsieur le...
Zakouma, c'est au Tchad.
Très bien préservé.
Très bien préservé.
Et monsieur le conservateur.
Merci, monsieur. Moi, j'aimerais au passage féliciter les autorités, le préfet, monsieur le maire, pour leur appui sans cesse croissant et leur demande de continuer, sinon de redoubler encore d'efforts, parce que en matière de conservation, on n'arrive jamais à l'étape qu'on voulait. Donc il ne faut pas relâcher, il faut que la pression ou bien la sensibilisation se poursuive. Et je voudrais les rassurer que, en ce qui concerne l'unité de gestion, en tout cas, nous faisons tout ce qui est de notre effort pour les informer, pour impliquer la population dans tout ce que nous faisons. Comme le directeur l'a dit, nous avons un plan d'aménagement et de gestion, et dans ce plan, les activités sont connues et nous les développerons, Inch'Allah, ensemble avec les populations concernées, Inch'Allah. Merci beaucoup.
Monsieur le maire.
Merci. Moi, je vais parler d'abord sur la visibilité. Je vais insister sur la visibilité du parc. Je vais interpeller le directeur de faune pour qu'il insiste sur la communication. Parce que beaucoup de Nigériens ignorent le parc parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc, il faut que nous nous penchions vers là-bas. S'il y a visibilité, il y a la sensibilisation, certainement les Nigériens vont venir. Et nous allons continuer à vendre ça ailleurs. Partout où nous serons, nous allons continuer à vendre parce que le parc, nous savons quelque chose pour le parc. Vraiment. Surtout sur la visibilité.
Bien. Voilà, pour finir, j'ai envie de vous poser une question, monsieur le directeur de la faune. Pour visiter le parc national du W, est-ce qu'il existe une procédure à suivre? Si oui, laquelle?
La procédure, je pense, c'est au conservateur. Ça, c'est une question pratique à poser au conservateur.
Okay. Bien. Je pense Colonel que Djibé Moussa,
c'est très facile. C'est très facile. Il suffit d'avoir un moyen de déplacement. Donc, vous vous préparez en conséquence pour venir au parc. C'est à l'entrée maintenant, il y a des taxes à percevoir.
À l'entrée,
la taxe d'entrée, c'est 3000 jours pour les Nigériens adultes. Mmh. Pour les Nigériens adultes, je dis bien. Et ça, le premier jour. Mmh. Si vous avez un séjour de 2 ou 3 jours, le premier jour, 3000. Tout le reste de votre séjour, c'est 1500, la moitié. Si c'est des enfants de plus de 16 ans, c'est 5, et de moins de 16 ans, c'est 500 francs. De 8 à 16 ans. 7 ans, c'est gratuit pour lui. 7 ans jusqu'à 0 mois. C'est 8 ans. C'est gratuit. Maintenant, ce qui est là, en dehors de la taxe d'entrée, c'est le guidage. Là, c'est une association autonome qui est là. Vous êtes obligé de prendre, de payer ce que
il demande.
Et ça, c'est 5 000. Le premier jour, juste le 5 000 par jour, je voudrais dire.
Et ça, qu'on soit national.
Que vous soyez national ou bien étranger, c'est comme ça.
C'est le même prix?
Non, pas les mêmes prix pour la taxe d'entrée, mais les mêmes prix pour le guidage. Pour les résidents étrangers. Parce qu'il y a deux catégories. Pour les résidents étrangers, le premier jour, c'est 4 000. Le premier jour, c'est 8 000. À cet instant-là, c'est 8 000. Et le reste du jour, c'est 4 000, 4 000.
Par jour.
Pour les non-résidents, c'est 10 000. Le premier jour et 6 000. Le reste des jours que vous allez à passer au parc.
Et ça, c'est à payer au poste d'entrée?
Ça, c'est à payer au poste d'entrée. Vous ne pouvez même pas dépasser la barrière si vous n'avez pas le ticket là, le reçu à main.
Qu'il faut acheter là-bas.
Qu'il faut.
Alors, directeur,
acquitter.
Oui.
Par contre, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport aux possibilités que vous avez. Mm-hmm. Vous avez des safaris. Mm-hmm. Vous avez la possibilité de prendre votre 4x4, vous faire safari à 4x4 mm-hmm. pour visiter les sites très riches mm-hmm. dans le parc. Vous avez la possibilité de faire le circuit pédestre. Mm-hmm. Moi, je prends le préfet, je lui dis changer de bazin, mm-hmm. mettre le tenue de sport, on marche à pied pour lui montrer les espèces, les traces des carnivores, les traces des antilopes, ceci, cela, et on remonte jusqu'aux gorges. Vous avez les circuits, fleuves, vous prenez votre pinasse, vous allez voir les oiseaux d'eau, les hippopotames, les éléphants qui dansent dans le bois. Ça, c'est beaucoup de possibilités. Et vous avez les structures pédestres. Le soir, la nuit, on a des projecteurs. Vous allez voir les carnivores, les civettes, les autres petits carnivores, notamment les chats sauvages et autres. Et là, en termes d'hébergement, vous avez l'hôtel Tapoa, vous avez l'île Lamantin, vous avez le site de Nigerka, où vous pouvez vous héberger dans la nature, où vous offrez au soir comme le matin la biodiversité à côté de vous.
Et l'île Lamantin, il contient, c'est quoi cette île?
Et l'île Lamantin, c'est un loge qu'on appelle île Lamantin. C'est un hébergement qu'on appelle écologe de haute gamme. Où le week-end, quand vous venez, vous allez voir tous les touristes là-bas. C'est plein souvent, c'est les touristes, les gens. Vous mangez très bien. En face du fleuve, vous allez voir les hippopotames, les oiseaux, souvent même les lions qui descendent. Et ça, malheureusement, c'est un peu cher. C'est pour des catégories de clients. Mmh. Et vous allez, la variation des catégories de clients, d'autres, les scolaires, comme il l'a dit, il y a un village scolaire où ils viennent en excursion et ils logent là-bas.
Bien. Monsieur le préfet, avant qu'on clôture.
Il y a aussi la possibilité d'avoir des cartes permanentes. Sachez, je pense que la carte permanente, c'est à 20 000, n'est-ce pas?
Donc, là, pour les Nigériens, c'est à 20 000.
Pour toute l'année, pour toute la saison.
Et pour une carte permanente pour avoir accès
à chaque fois quand vous venez.
Elle s'achète à.
Elle est individuelle.
À 20 000.
À 20 000 francs CFA. Et pour les étrangers, 40 000 francs CFA. Et vous avez l'accès au parc toute l'année.
C'est là où je vais intervenir. Monsieur le directeur de la faune et des aires protégées,
oui.
Nous vous demandons de bien vouloir faire des démarches auprès des grandes institutions de la République, notamment auprès du bureau de l'Assemblée nationale, pour, on peut même le dire, presque obliger chaque député à prendre la carte permanente auprès du gouvernement, à travers le ministre de l'Environnement, pour que chaque membre du gouvernement prenne la carte permanente.
Même s'ils ne viennent pas.
Même s'ils ne viennent pas, ils n'ont qu'à prendre. Même s'ils ne viennent pas, ils n'ont qu'à prendre.
Peut-être qu'en prenant, ils auront un jour...
C'est des ressources pour les parcs. Ouais. Un jour, ils auront besoin de dire, j'ai investi 20 000, il faudrait que
aller en profiter.
Que j'ai juste de ça, ils vont venir faire un tour. Franchement, ça, il faut le faire. Et peut-être que si eux, ils font les premiers pas, les autres vont suivre. Merci beaucoup.
Merci. Si personne n'a rien à ajouter, nous clôturons ce forum.
C'est une séjour assez importante et je pense que on va se retrouver à Niamey encore davantage. On va avec lui parler de ça à la télévision. Et maintenant, ils savent, en 2006, il y a eu 800 nationaux. Et il y avait des députés qui venaient avec leurs enfants.
Mais...
Et c'est cette année où on a rehaussé, on a eu beaucoup de l'argent par rapport aux nationaux. Et si la seule année qu'on a eu ces records-là.
Mmh.
Et je pense que c'est une suggestion assez importante. Et nous, on va inculquer ça aussi à notre hiérarchie pour qu'eux-mêmes, quand ils vont à l'Assemblée, parce qu'avant-hier, ils étaient à l'Assemblée pour dire ça.
Pour ce qui est du guidage dans le parc, comme le conservateur l'avait souligné, il est nécessaire, voire obligatoire, de faire appel au service d'un guide pour visiter et mieux découvrir le parc du W. À propos, je suis avec Omar Wali, un guide et accompagnateur au parc national du W. Il va nous parler de son expérience dans le travail de guide touristique. Ça fait combien d'années que vous exercez ce métier de guide?
Cette année, j'ai 23 ans de service.
Comment est-ce que vous avez commencé votre carrière de guide?
J'étais à l'école. J'étais renvoyé en classe de 5e. Et là, une fois, je suis venu ici à la Tapoa. J'ai trouvé qu'ils veulent faire une formation de guidage. Donc, je me suis présenté volontairement et ils m'ont accepté de faire la formation. Et c'est de là-bas que ça a commencé.
Donc, pour être guide, il faut être formé?
Ah oui, pour être guide, il faut être formé. Il faut connaître d'abord le parc. Parce qu'il faut connaître le parc. Et ici, comment on fait pour connaître le parc? C'est le moment où on fait la réparation des pistes à l'intérieur du parc, l'entretien des pistes. C'est en ce moment que les gens profitent pour connaître le parc. Donc il faut connaître d'abord le parc et en même temps maintenant tu seras formé. En même temps connaître les animaux, les oiseaux, la végétation, etc. quoi.
Et vous aujourd'hui vous connaissez bien le parc?
Oh là là, le parc aujourd'hui, moi je connais le parc comme de ma poche. Hein.
De quel côté se trouvent les lions?
Les lions en général ils sont partout. Mais la plupart, on les cherche le matin de bonne heure, le coucher du soleil et au bord de l'eau.
Et les éléphants, on les trouve où?
Les éléphants, on les trouve sur le long du fleuve Niger, à partir de Korogungu jusqu'à Karekopto.
Là où nous sommes, à peu près à combien de kilomètres de l'hôtel?
C'est à 20 kilomètres de l'hôtel qu'on peut trouver les éléphants. Et il y a une rivière ici, la rivière Tapoa, qui est à 1 kilomètre. Là-bas aussi, à partir de midi jusqu'à 15 heures, il y a des groupes qui viennent s'abreuver là-bas aussi.
Est-ce qu'on trouve ici des oiseaux, de beaux oiseaux?
Les oiseaux, ici dans le parc, on a 365 espèces d'oiseaux. Donc il y a vraiment des jolis oiseaux ici. Et dans les 365, je connais à peu près 259 oiseaux. Et même par les cris, je peux te dire c'est quel oiseau. Et envers les couleurs aussi, je peux te dire l'oiseau là, il a telle couleur, telle couleur. Et
tu sais où est-ce qu'on peut les trouver?
Oui, les oiseaux, toujours, ils sont sur le long des rivières. Et il y a d'autres qui ne sont pas à côté de l'eau, parce qu'il y a des oiseaux aquatiques et il y a d'autres qui ne sont pas à côté de l'eau, quoi.
Si je vais aujourd'hui que vous me conduisez dans le parc pour bien voir, combien je dois vous payer?
Le guidage ici, c'est à 5 000 le jour.
Si aujourd'hui vous devez me conduire dans le parc, si on quitte ici, quel est le premier lieu que vous allez me faire visiter?
Donc, dès qu'on quitte ici à l'administration, donc on part à 1 kilomètre, il y a la rivière Tapoa. Il y a des miradors là-bas. Donc on fait escale là-bas d'abord pour voir les animaux qui viennent s'abreuver. Il y a les crocodiles aussi. Et là maintenant, après, on continue dans les parcs. Parce qu'on a plusieurs chemins dans le parc. On a au moins une trentaine de pistes dans le parc. Donc maintenant, on choisit la meilleure piste qu'on sait que vraiment on peut voir les animaux.
Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'un lion puisse nous prendre en attaque ou un guépard ou un éléphant?
Ah, ici, vraiment, nos animaux, ils sont très sérieux, puisque déjà, on connaît leur situation, ils respectent les gens. Tous les animaux, que ce soit les lions, les buffles, les éléphants, c'est quand ils sont blessés ou bien ils ont des petits, c'est en ce moment qu'ils sont agressifs. Mais sinon, les animaux-là n'attaquent jamais les gens.
Ce métier-là, qu'est-ce que vous avez gagné dedans?
Bon, ce qu'on gagne dedans, c'est que déjà on vit dedans, déjà on se marie dedans, on se nourrit dedans, tous nos baptêmes, tous nos problèmes, on résout avec nos problèmes.
Par semaine, vous pouvez avoir combien?
Bon, ces derniers temps, il n'y a pas de touristes. Des fois, on fait même 2 semaines et on ne part pas en visite. Hein. Des fois, on fait 2 semaines, il n'y a pas de visiteurs.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a eu un changement dans le parc? Le nombre d'animaux qu'il y a avant et aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose?
Bon, c'est pas la même chose qu'avant. Les animaux aussi, comme on a des problèmes d'eau, parce que d'ici 2 mois, il y aura que la rivière Tapoa, la rivière Mekuru et le fleuve seulement qui a de l'eau. Donc vraiment, il y a un problème de mouvement chez les animaux. Sinon, ça va quand même.
Est-ce qu'il y a des animaux qu'on ne voit plus maintenant parce qu'on les a tués ou bien parce qu'ils ne se sentent plus bien, qui ont disparu?
Chez les animaux, ceux qui sont un peu diminués, c'est les bibales. Parce que les bibales, c'est très facile à capturer pour les braconniers. Par exemple, si tu trouves un groupe de bibales, si vraiment le chasseur est très méchant, même s'ils sont une dizaine, il peut tous les éliminer. Parce que si tu abats un, le groupe vont aller faire un tour et puis revenir voir ce qui a trouvé leur camarade. Donc tu abats encore et ils vont retourner encore.
Pour finir, je vous propose de suivre notre entretien avec Madame Abdou Aïssa, directrice du patrimoine touristique et hôtelier, qui va nous parler des actions de promotion et de valorisation que mène le ministère du Tourisme au profit du parc national du W. Madame la directrice, dites-nous, quel lien faites-vous entre le tourisme et l'environnement?
Ce lien-là, je veux le faire d'abord avec le parc national du W, qui est situé à 150 km de la capitale. On développe surtout dans ce parc-là l'écotourisme. C'est un nouveau concept du tourisme. L'écotourisme que l'on associe à un tourisme vert. C'est une des formes de tourisme durable, plus concentré à la découverte de la nature, tout en respectant l'environnement et la culture sociale.
Quelle est la place qu'occupe le parc national du W parmi les richesses à potentiel touristique dont le Niger dispose?
Nos deux produits phares au Niger sur le plan touristique, il y a le désert et il y a le fleuve. Maintenant, dans le désert, avec l'insécurité, on est plus
orienté
au niveau du parc national UW sur l'écotourisme.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à votre contribution dans la valorisation du parc national UW?
Notre contribution dans le développement de l'écotourisme intégré au niveau de la réserve transfrontalière de la biosphère Parc W, on a aménagé des sites touristiques tels que la réhabilitation des campements touristiques au niveau de Moli Hausa, de Karikapto, de Bumba dans la zone du Parc W et à la construction des campements touristiques villageois de Birgambou, toujours dans le Parc W. Il y a la valorisation des sites du parc du W, tels que des miradors par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc il y a des miradors qui ont été construits. Il y a eu la réhabilitation du forage pour que la population riveraine puisse en bénéficier. Et il y a l'électrification aussi du parc par des panneaux solaires.
Tout le parc ou une partie?
Tout le parc. On a électrifié le parc.
Qu'est-ce que le tourisme qui est développé autour du parc national rapporte aux populations riveraines, en particulier, et à l'état du Niger en général?
Je parle toujours de l'écotourisme comme parc du parc. Donc ça a permis, le développement de cet écotourisme a permis l'amélioration du niveau de vie des populations locales et la diminution effective de la pauvreté, la création des emplois, la création des petites et moyennes entreprises liées au tourisme, apport de ressources diverses aux régions concernées, la contribution à la stabilité sociale dans ces zones.
Quand vous dites que le développement de l'écotourisme au niveau du parc a permis de réduire la pauvreté, de créer des emplois, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le genre d'emplois que ça a créé?
Par exemple, quand je vous parle de la réhabilitation des campements, donc là, c'est à base de matériaux locaux. Les matériaux, ça se trouve sur place. C'est la population qui va, qui les cherche. C'est la population, c'est en tout en respectant leur culture, l'architecture de leur milieu, c'est eux-mêmes qui les construisent et c'est eux-mêmes qui gèrent ce campement-là. Maintenant, si je vous parle de création d'emplois, quand il y a l'hôtel de la Tapoua, en général, la majorité, c'est les habitants locaux qui gèrent ça, qui ont été formés sur place et qui ont pris ça.
C'est-à-dire que c'est eux qu'on a pris comme employés au niveau de l'hôtel.
Employés, employé de l'hôtel. Donc c'est la même chose comme au niveau de l'écologie de la Mantin, c'est la même chose au niveau de l'écologie de la Croix du Sud. Donc c'est la population locale même qui a pris ça en charge. Parce que sans l'adhésion de la population, on ne peut pas. L'État du Niger gagne sur les recettes. Parce que sur la clé de répartition des recettes touristiques, donc 50% de ces recettes sont reversés à la commune rurale de Tamou.
Donc commune dans laquelle se situe le parc.
C'est le parc. Et puis les 20% de ces recettes sont versées au budget national. 30% réservés à l'aménagement de la faune, qui est un fonds détenu dans un compte du Trésor national.
Vous avez dit que le gouvernement compte mettre, en tout cas compte développer l'écotourisme. Et cela a été même axé dans le PDS 2017-2021. Est-ce qu'on peut avoir une idée des projets à venir pour les années 2019-2020-2021?
Oui. Je disais que c'est pas fini le développement du parc dans le cadre du tourisme. Donc, il y a eu plusieurs conventions interministérielles, telles qu'il y a eu la création et la mise en place d'un comité national et de comités régionaux et locaux du tourisme. Il y a eu la création et la mise en place d'un cadre de concertation tourisme-environnement-culture. On est en train de faire une étude d'implantation des structures légères de restauration dans certaines localités au niveau du parc. Il y a aussi des circuits inter-états au niveau de l'IMOA ou de la CEDEAO qu'on crée. Donc les touristes, quand ils vont venir, ils vont faire le circuit inter-État.
Ça veut dire quoi?
Le circuit inter-État, ça veut dire que quand un touriste vient
au Niger,
donc il peut le faire. Il faut traverser le parc. Par exemple, le parc, c'est bien le Niger, le Bénin
et le Burkina.
Donc, avec un visa, par exemple, IMOA, ou bien visa pays d'entente, visa entente, il peut le faire sans problème.
Les comités interministériels et les comités que vous avez cités tout à l'heure, c'est quoi l'objectif de leur création?
Bon, surtout le comité concernant la mise en place d'un cadre de concertation, tourisme, environnement, culture. Normalement, le comité là doit réfléchir sur le développement de ces produits-là. Et nous, au niveau du tourisme, que ce soit la culture ou l'environnement, nous, on fait de ça nos produits touristiques et afin de les promouvoir.
Et c'est sur ce que prend fin notre série de forums au Parc national du W. Créé en 1954, le Parc du W est la principale aire protégée du Niger. Parmi les 9 aires protégées du Niger, c'est l'unique réserve qui a été classée sous plusieurs labels. En effet, le Parc national du W est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Il est classé réserve biosphère transfrontalière en 2002 et désigné site Ramsar en 2007. Le parc est confronté aujourd'hui à divers défis, notamment humains, environnementaux et climatiques, ce qui explique en partie la raréfaction, voire la disparition totale de nombreuses espèces animales. Cependant, ce parc renferme les 80% de la biodiversité de l'ensemble du Niger. Nous venons de voir ensemble l'engagement sans cesse croissant des différents acteurs dans la préservation, la valorisation et la promotion du parc national, compte tenu des avantages multiples et multiformes de ce parc pour les populations riveraines en particulier et pour les populations nigériennes en général. Il ressort la nécessité pour chacun de connaître et de faire connaître ce parc et de le préserver, chacun à sa manière. Nos invités pour cette émission étaient Mustapha Mahman, préfet du département de Saï, Yacouba Diallo, maire de la commune rurale de Tamou, Samaïla Sahelou, directeur de la faune, de la chasse, des parcs et réserves, colonel Moussa Djibé, conservateur du parc national du W, madame Abdou Aïssa, directrice du patrimoine touristique et hôtelier, et Omar Wali, guide et accompagnateur du parc national du W.
À la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou, la technique assurée par Ali Issoufou, merci.